Nous lisons donc un premier texte dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. Il s'agit de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Nous lisons un autre texte dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Au chapitre 12, nous lisons les deux premiers versets. « Je vous exhorte donc, frères, dit l'apôtre, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je voudrais simplement vous relire ce verset 2, tel qu'il se présente à nous, au niveau du texte original, c'est-à-dire du texte grec. Voici comment il convient de lire très exactement ce texte. N'ayez pas les schémas du siècle présent. Parce que l'apôtre, ici, use du terme « schéma » en grec, d'où nous vient le mot français « schéma ». N'ayez pas les schémas du siècle présent, mais soyez métamorphosés, littéralement en grec, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et pour finir, un dernier texte, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, un texte qui parle de changement, précisément, l'apôtre décrit ce qui suit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Comme il vous l'a été donc dit tout à l'heure, nous traitons ce soir d'une génération en mal de changement. Parce qu'il semble qu'aujourd'hui le goût soit au changement. Un peu partout sur la surface de la terre. Et c'est fou ce qu'on peut nous entretenir de changement aujourd'hui. Ainsi, par exemple, en France, il y a peu de temps, on nous a entretenu, comme vous l'avez certainement appris, de changement dans le calme, de changement sans risque, de changement tranquille. Et puis, on nous a aussi entretenu de changements par la révolution violente. Il semble donc qu'on qu'on n'ait jamais autant parlé de changement qu'aujourd'hui. Mais comme le dit, à juste titre, le vieil adage français, plus ça change, et plus c'est la même chose. Plus ça change, et plus c'est la même chose. Figurez-vous qu'il y a peu de temps, je me suis trouvé dans l'Ontario pour une série de réunions. Dans ce Canada anglais, à l'est du Québec. Et là, au terme de mon séjour dans l'Ontario, cette chère famille chez laquelle j'avais passé ces 15 jours m'avait proposé de me conduire jusque dans un magasin pour que je choisisse un objet, n'importe lequel, ou un vêtement, en souvenir de mon passage chez eux. Alors, j'avais accepté cette offre de leur part et nous étions allés ensemble dans un grand magasin. Et là, mon choix s'était fixé sur une cravate, pour ne pas les ruiner. Hein. Il aurait pu se fixer sur un beau costume ou un beau chapeau. Hein. Mon choix s'était fixé sur une cravate. Alors mes amis m'ont dit, eh bien oui, une cravate irait tout à fait, vous auriez ainsi une cravate canadienne pour changer un peu. Une fois la cravate choisie, elle fut payée par ses amis, puis ensuite glissée dans ma valise. Et une fois à Paris, je l'ai sortie de ma valise pour la montrer à mon épouse. Tiens, regarde donc cette belle cravate canadienne que ses amis m'ont offerte à l'occasion de mon passage chez eux. Une cravate canadienne pour changer. Et mon épouse, qui est un peu comme toutes les femmes, en d'autres termes, plus proche des choses matérielles que nous les hommes, de prendre cette cravate, de la retourner dans tous les sens, puis de venir vers moi avec ces mots, une cravate pour changer, une cravate canadienne, eh bien tiens, regarde donc ceci. Yves Saint-Laurent, Paris. Plus ça change et plus c'est la même chose. Voilà le changement de l'homme d'une façon générale. Mais sommes-nous condamnés à toujours chercher l'introuvable, c'est-à-dire le changement, le vrai changement? La Bible dit des hommes qui parlent de changement. Il n'y a point de changement en eux. Au psaume 55e, verset 20e. Il n'y a point de changement en eux. Et ceci, de manière toute naturelle, nous conduit à nous poser la question de savoir ce qu'est vraiment un chrétien. C'est quoi un chrétien? Il y a peu de temps, encore à Paris, dans un ministère sédentaire, nous étions allés dans la rue avec des jeunes, micro en main pour une enquête. Et là, nous avions couramment posé la question dans ces rues de Paris. Dites, monsieur, pour vous, un chrétien, c'est quoi? Et pour toi, jeune, c'est quoi un chrétien? Et pour vous, madame, etc. Et nous avons obtenu toutes sortes de réponses, excepté la vraie réponse. On nous a par exemple dit, quelqu'un nous a dit, écoutez, un chrétien, c'est quelqu'un venu au monde dans une famille chrétienne. Alors, à celui-là, j'ai failli répondre, mais vous pensez donc qu'on peut venir au monde en chantant un cantique? Et puis, est-ce que réellement nous pouvons venir au monde chrétien? Parce qu'ayant eu des parents chrétiens? Beaucoup pensent que le christianisme est héréditaire, que la foi est héréditaire. Et que pour finir, eh bien, si nos parents, nos ancêtres ont été d'authentiques chrétiens, automatiquement nous le sommes. Ceci fait de nous des chrétiens. irrésistiblement. Mais quelle erreur! Quelle erreur! On peut avoir les meilleurs parents chrétiens qui soient et ne pas être chrétiens nous-mêmes. On peut être chrétien par éducation, beaucoup le sont. On peut être chrétien par tradition. On peut être même chrétien par culture. Le Christ, dans les textes entendus tout à l'heure, voudrait que nous le soyons par nouvelle naissance. Et tant que quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il ne verra pas même ce royaume. Jésus a insisté sur cette seconde naissance, parce qu'elle est importante. Jésus n'a pas dit « il serait bon que vous naissiez de nouveau, ça vous ferait peut-être du bien ». Il a dit « il faut que vous naissiez de nouveau, c'est impératif, c'est nécessaire, autrement c'est la perdition, c'est la mort ». Qui que nous soyons, avec les meilleurs parents chrétiens qui soient, on raconte au pays de Montbéliard, et ce que je vous transmets me vient d'un cher ami, officier de l'armée du salut, lequel est venu un jour dans mon église à Paris pour une série d'évangélisations et m'a raconté cette histoire savoureuse. On rapporte au pays de Montbéliard qu'il existait un homme, un ivrogne et un vétéré, lequel marchait carrément à l'alcool. Quand un jour, cet ivrogne qui semait l'enfer dans son foyer et dans son cœur s'était présenté à une réunion de l'armée du salut pour s'asseoir au dernier rang. En réalité, ce clochard, cet ivrogne, voulait simplement passer quelques heures au chaud. Et là, dans ses vapeurs, cet ivrogne reçut l'évangile en pleine face. Et au moment de l'appel à venir au banc des pénitents, puisque c'est ainsi que l'armée du salut procède lors de l'appel, cet ivrogne s'est levé et titubant de tout son corps, château branlant bien sûr, il s'est avancé par l'allée centrale pour s'écrouler là, au banc des pénitents. Et à partir de ce jour, cet homme fut carrément, radicalement changé, littéralement changé par la puissance de Jésus-Christ. À partir de là, bien sûr, plus aucune goutte de vin ne passa dans sa bouche. Et tout avait changé, non seulement chez lui, mais aussi dans sa famille. Et à partir de ce jour-là, cet homme ne manquait plus une réunion de l'armée du salut. Mais voilà qu'un dimanche, cet homme fut cloué au lit par une mauvaise grippe, un mauvais rhume, de sorte que, malade, il ne put se rendre à la réunion habituelle, à laquelle son fils avait coutume de l'accompagner. Il avait un petit garçon, haut comme trois pommes. Et ce jour-là, ce dimanche-là, son fils est allé vers lui pour lui dire « Papa, tu ne vas donc pas à la réunion aujourd'hui ?»« Mais non, je ne peux pas. Est-ce que tu m'autorises à y aller seul comme un grand ?» Son père de lui dire « Mais bien sûr, tu peux y aller. Et surtout, fais bien attention en traversant les rues. Et que Dieu te bénisse, c'est notre petit garçon, d'y aller tout seul comme un grand. » Et une fois dans cette salle de réunion, il prit place là où il avait coutume de s'asseoir avec son père. Et ce jour-là, l'officier de l'armée du salut avait invité les gens, les personnes venues à rendre leur témoignage. Mais personne n'osa le faire. Il arrive qu'on n'ose pas rendre notre témoignage pour des raisons qui peuvent se comprendre et comme pour des raisons qui ne peuvent pas se comprendre. Personne donc, ce dimanche-là, ne voulut rendre son témoignage au grand désespoir de cet officier, lequel faisait chanter un cantique, puis un autre, pour donner le temps aux amis venus de réfléchir. Toujours pas, toujours personne. Quand ce petit garçon s'est dit dans sa petite tête, « Ah, si papa avait été là, certainement qu'il se serait levé pour rendre son témoignage. » Mais qu'ont-ils aujourd'hui, ces gens, à ne pas vouloir parler de Jésus-Christ ? Et cette idée fit son chemin dans sa petite tête. Et l'officier de continuer d'appeler. Quand ce petit garçon vint à se dire, « Mais et si je faisais comme si papa était là ?» Alors il leva la main. L'officier le vit et lui dit, « Mais mon garçon, viens jusqu'ici, parce qu'on peut être chrétien et enfant, enfant et chrétien. » Et voilà notre petit garçon en chair, sur la tribune, on dû baisser le micro à son niveau. Et puis là, de faire comme si son papa avait été là. L'air sérieux et grave, il s'adressa à l'auditoire avec ces mots. « J'étais un gros buveur. Chaque soir, en rentrant chez moi, je battais ma femme. Et il était parti à rendre le témoignage de son père, qui, bien sûr, sonnait faux dans sa bouche, parce que ce témoignage n'était pas le sien. Son père avait été un chrétien remarquable après sa conversion. Un chrétien bouillant. Mais ce chrétien qu'il avait été n'avait pas fait de son fils automatiquement un authentique chrétien. Et ce témoignage sonnait faux dans la bouche de cet enfant. Et tous, évidemment, s'étaient mis à rire comme vous venez de le faire parce que c'était risible. Parce que c'est risible. Et pourquoi cette histoire ? Parce que là, très souvent, quand je me trouve en région catholique, par exemple, en France ou ailleurs, on me dit, mais Alain Choquier, savez-vous, dans notre famille, nous avons le privilège d'avoir deux prêtres et trois bonnes sœurs. Alors imaginez-vous à qui vous vous adressez. Et quand il m'arrive de me trouver en pays protestant, dans les Cévennes en particulier, ou encore en Alsace, on me fait à peu près la même réponse. Mais Alain Choquier, tout ce que vous allez nous dire, nous l'avons reçu au biberon. Oui, nous avons tété l'Évangile, littéralement. Et puis nos parents, vous savez, nos ancêtres, et ont été des huguenots. Alors toutes ces choses, nous les savons. Est-ce que ça vous sauve, cela ? Que vous ayez eu des parents huguenots, est-ce que ça fait de vous de nouvelles créatures ? Est-ce que ça vous sauve ? Mes amis, la foi est une affaire très personnelle. La nouvelle naissance également. Personne ne peut naître de nouveau à ma place. Personne ne peut avoir la foi à ma place pour mon salut. Alors un chrétien, c'est quoi ? On a encore entendu la réponse suivante, c'est un baptisé. Alors, nous acceptons qu'un baptisé plutôt, peut être vraiment chrétien. Mais il peut aussi se faire qu'un baptisé ne le soit pas. Vous savez qu'Hitler a été baptisé ? Mais écoutez, si vous me dites qu'il a été chrétien et qu'il est aujourd'hui au ciel, Alain Choquier va en enfer. Encore que nous ne sachions pas ce qui s'est passé dans son cœur au tout dernier moment. Mais cet homme a été baptisé. Et puis la Bible nous fait part, nous raconte l'histoire de ce brigand crucifié à côté du Seigneur, lequel perdait son sang en abondance et qui avait dans un premier temps injurié le Seigneur, mais qui avait été touché par Dieu dans son cœur et qui s'était repenti de ses péchés en ces termes. S'adressant au Christ, il lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne !» Là, sur la croix, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne !» Et qu'est-ce que Jésus lui répondit ? « Mais trop tard, mon gars ! Arrange-toi comme tu peux pour descendre de ta croix et cours vers le Jourdain, vers un baptiste par là, qui pourrait t'immerger dans les eaux du Jourdain. Tu t'y prends trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. » Heureusement que ce ne fut pas là la réponse du Seigneur. Bien au contraire, le Christ lui a dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, sans baptême, sans œuvre aucune, sinon ces œuvres pour lesquelles il était en train de mourir, ces œuvres criminelles. Il reçut la promesse de la vie éternelle. Alors, on peut être chrétien et sauvé sans être passé par le baptême. Peut-être que ce message va nous bousculer dans toutes nos conceptions. Tout ce que nous avons pu apprendre et recevoir depuis le commencement. Et puis c'est quoi un chrétien ? Oh, il nous faut répondre à présent. Jésus répond. Dans une netteté, une clarté qui devrait nous faire accepter sa parole. Un chrétien, dit-il à Nicodème, en d'autres termes, en substance, c'est un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, né deux fois. Voilà ce que c'est qu'un chrétien. Parce que vous, Alain Joaquier, vous êtes né deux fois. Oui, mes amis, je suis né deux fois. Mais Alain Joaquier, l'air de notre vallée ne semble pas vous convenir. Vous êtes né deux fois, certainement. Et pour vous en persuader, tenez avec moi tous ceux et celles qui, dans ce lieu ce soir, sont nés deux fois. Haut la main, non pas haut les mains, mais haut la main. C'est la grande majorité. Voyez que je ne suis pas le seul fou dans ce lieu ce soir. Et ça me rassure. Oui, Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Première naissance. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Seconde naissance. Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est urgent, c'est un impératif, parce que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il ne le verra pas. Un chrétien, c'est un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, né, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais c'est quelqu'un né de Dieu. Êtes-vous né de Dieu ? Si vous n'êtes pas né de Dieu, et même si vous pensez avoir la meilleure religion, vous irez en enfer. Pourquoi ? Parce qu'aucune religion ne sauve, aucune dénomination ne sauve. Ce qui sauve, c'est toujours une personne. C'est Christ, le seul nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seul Christ sauve. Aucune église ne sauve, aucune dénomination ne sauve, aucune religion ne sauve, pas même la meilleure. Voyez-vous, je voyage énormément. Et partout où j'ai l'occasion de me trouver, sous quelque cieux que ce soit, les hommes sont persuadés qu'ils sont en possession de la meilleure religion. Voilà 2 mois, j'étais en pays oriental. Et là, j'ai entendu ce qui suit. J'y étais en coup de vent. J'ai entendu ce qui suit. L'islam est la meilleure religion. Pour telle et telle et telle bonne raison. Et je pense que ces gens, et qui parlait ainsi, était sincère. Seulement, voyez-vous, la sincérité ne suffit pas. En matière de foi, de religion, parce qu'on peut se tromper sincèrement, et il n'est jamais dit dans les Saintes Écritures que la sincérité sauve qui que ce soit. Ça n'est jamais la sincérité qui sauve, encore qu'il faille être sincère dans notre recherche de Dieu. Mais il faut être sincère dans la bonne direction. C'est-à-dire dans la direction de la vérité. Laquelle vérité ? Et Christ, une personne encore, pas quelque chose, quelqu'un. Et quand je me trouve en région protestante, en France ou ailleurs, mais j'entends à peu près un même refrain. Le protestantisme, c'est ce qu'il y a de meilleur. À cela, je réponds, le protestantisme ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et quand je suis en région catholique, j'entends à peu près la même chanson. Mais je dis que le catholicisme ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est toujours Christ qui sauve. Jamais une religion, jamais un rite, jamais une tradition, jamais une éducation, c'est Christ. Jamais une culture. C'est Christ. Et ce Christ, il faut le recevoir en nous, dans notre cœur, par la foi, selon que l'apôtre l'écrit aux Éphésiens, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Voilà donc ce qu'est un chrétien. C'est donc un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, née de foi, et pour ne vous laisser aucune excuse. Et pour tenter d'expliquer l'inexplicable, permettez que je dise ceci. Parce que peut-être dans votre esprit, vous vous posez la question, mais comment arriver à cette nouvelle naissance ? Comment faire pour qu'elle se produise dans notre cœur ? Parce que le changement de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et ce changement-là n'est pas un changement en surface, c'est un changement en profondeur. Jusqu'aux racines de l'être. Dieu nous change au plus profond de nous-mêmes par la nouvelle naissance. Eh bien, la nouvelle naissance s'opère dans le cœur d'un homme lorsque celui-ci s'ouvre au message de l'Évangile qui présente Christ crucifié pour ses péchés, Christ ressuscité pour sa justification. Alors, ce message reçu, il entre dans le cœur un peu comme une semence. Le message de l'Évangile, la parole de Dieu, est une semence de vie. La Bible le dit, une semence de vie. Cette semence de vie, une fois reçue, parce que nous ayant trouvé ouvert, vient être en nous comme fécondée au plan spirituel par le Saint-Esprit. D'où cette parole du Christ, ce qui est né de l'Esprit. Cette parole de vie, cette semence de vie, vient être comme fécondée au plan spirituel, bien sûr, par le Saint-Esprit, et le résultat de cette fécondation spirituelle en nous produit cette nouvelle naissance et surtout cet homme nouveau qui porte l'image du Christ. Est-ce que cette opération s'est passée dans votre cœur. C'est une opération qui change la vie complètement, qui l'oriente différemment, qui nous change le cœur, qui nous change la mentalité, qui nous change l'esprit. Voilà pourquoi ce texte d'Ézéchiel 36-26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et voilà pourquoi aussi cette parole de Dieu, au livre de l'Apocalypse, chapitre 21, et au verset 5, ce Dieu qui dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Dieu parle de changement, mes amis. Et son changement n'a rien à faire avec le changement que l'homme nous propose. Cette nouvelle naissance n'est pas non plus du rafistolage. Ça n'est pas non plus du replâtrage. Parce que quand on parle de nouvelle naissance, généralement, on nous renvoie la balle en ces termes. Mais Alain Joaquet, par exemple, nous essayons de nous rendre meilleurs. Naître de nouveau n'est pas essayer de se rendre meilleur. L'éducation peut nous rendre meilleurs, l'instruction, la culture, tant de choses. Mais tout ceci nous laisse tels que nous sommes dans nos profondeurs. D'ailleurs, il existe le proverbe que vous savez. Chassez le naturel. Que fait-il ? Il revient au galop. Il revient au galop. Parce que ce naturel colle à nous comme notre peau. Et au fond, pourquoi vouloir le chasser, ce naturel ? Ne dit-on pas généralement que ce qui est naturel est le meilleur? Eh bien, parce que nous sommes persuadés qu'il y a dans ce naturel, hérité de nos pères, de nos ancêtres, quelque chose qui n'est pas en ordre, qui ne tourne pas rond, le péché. Et naître de nouveau n'est pas du tout essayer de se rendre meilleur. Naître de nouveau, c'est passer, dit la Bible, des ténèbres à la lumière. C'est passer de la mort à la vie. C'est passer de la puissance de Satan à Dieu. C'est changer de monde. C'est changer d'univers. C'est recevoir la vie de Dieu en nous. C'est changer de vie par la puissance de Dieu. Voilà ce qu'est naître de nouveau. J'aimerais que ce soit clair ce soir pour que chacun puisse faire le point devant Dieu à la lumière des Saintes Écritures. Naître de nouveau, c'est renaître. Ah, que d'hommes, de femmes voudraient recommencer. Vous savez, un jour, nous sommes allés à quelques-uns dans une maison de personnes âgées. Et nous avons posé la question, dites madame, si c'était à refaire. Et vous, monsieur, si c'était à refaire. Et nous avons obtenu presque toujours la même réponse. Nous vivrions autrement. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Je me souviens de ce vieux médecin que j'avais coutume de visiter lorsque j'étais pasteur à Paris. Dans son hôtel particulier du 16e arrondissement, un vénérable vieillard qui avait passé 90 ans. Imaginez, hein. Alors, ce vénérable vieillard me demandait de le visiter souvent, parce qu'il n'avait aucune assurance quant à l'éternité. Il se savait au seuil de l'éternité, mais il n'avait aucune assurance, et ce médecin, parce qu'il avait été médecin, avait été aussi une sommité au plan médical. Président de l'Académie de médecine de Paris. Inventeur d'un trocus, le trocar de cus. Vous qui êtes dans les professions médicales ou paramédicales, vous devez certainement savoir ce dont il s'agit, le trocar de cus, du docteur cus. Eh bien, ce médecin de me dire, me voilà 90 ans passés, sans aucune certitude, sans aucune assurance, avec devant moi simplement le trou béant, et croyez-vous qu'il peut encore se passer quelque chose à mon âge ? Je lui ai dit, docteur, je me sens tellement petit en face de vous. Vous avez été un éminent chirurgien, vous êtes président de l'Académie de médecine. Mais je puis vous affirmer que vous pouvez renaître à votre âge. À 90 ans, passé. Pardon, à 90 ans, hein, c'est vrai qu'on est en Suisse. À 90 ans passés, mais oui, vous pouvez renaître. Et ce médecin, alors, a ouvert son cœur au Seigneur. Il s'est confié en Christ, et je me souviendrai toujours du moment où alors son cœur s'est ouvert, où il s'est mis à pleurer, où il s'est levé de son siège pour s'appuyer sur sa canne. J'étais assis en face de lui dans son salon. Tenez-vous bien, Sévigné, hein, du 16e arrondissement, pour tomber dans mes bras, littéralement, et me dire, mais monsieur Joaquet, ce que vous venez de me dire,
Mais voilà 90 ans que j'aurais dû l'entendre. Mais pourquoi ne l'ai-je pas entendu? Et cet homme s'est confié en Christ. Il s'est repenti de ses péchés. À 90 ans, il est né de nouveau. 3 semaines après, je recevais son faire-part de décès. Tout juste, in extremis. Mais il était né de nouveau. Quel que soit votre âge, mon ami, jeune ou moins jeune, la nouvelle naissance vous concerne. Elle vous concerne. Me trouvant dans l'Ontario, je le disais tout à l'heure, lors de ce même séjour, dans la rue, quelqu'un s'est approché de moi. Il s'agissait d'un ancien hippie, devenu chrétien, né de nouveau, lequel distribuait des traités d'invitation pour une réunion. Cet homme s'est approché de moi pour me tendre un traité d'invitation, écrit bien sûr en anglais, mais qui se présentait de cette manière-là. Et combien j'avais apprécié cette présentation. Ce traité disait ce qui suit, en anglais. Si une première naissance ne vous a pas satisfait, essayez donc la seconde. Ah, que j'ai aimé ça. Et il en est un par milliers, par millions, qu'une première naissance n'a pas satisfait. Qu'ils essaient donc la seconde. Vous êtes peut-être ici un certain nombre qu'une première naissance n'a pas satisfait. Vous pourriez être satisfait de la seconde. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et pour mieux comprendre ce que représente la nouvelle naissance, parlons quelques instants de métamorphose. La métamorphose est un prodige de la nature, voulu de Dieu, créé par Dieu. Et c'est Vinet qui disait, la nature, la création est comme une parabole de la grâce. Un papillon, c'est quoi? Nous commençons d'en voir, là, hein, des papillons aux ailes magnifiques. Mais un papillon, c'est quoi? Sinon, un insecte né 2 fois, vous êtes d'accord? Une première fois chenille et une seconde fois papillon. On ne naît jamais papillon du premier coup. Papillon, on le devient par la métamorphose. Et regardez, il y a une chenille dans votre potager qui se tortille dans tous les sens pour avancer. Dans sa peau de chenille, à un certain moment de son existence, elle s'enferme dans une chrysalide ou dans un cocon. Et quelque temps après, ce même être est métamorphosé. On ne le reconnaît plus. Il sort de la chrysalide ou du cocon, changé, transformé, métamorphosé. Et la métamorphose nous parle de nouvelle naissance. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai eu à cœur de vous lire au niveau du texte grec, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, n'ayez pas les schémas de ce siècle, mais soyez métamorphosés. Littéralement en grec, par le renouvellement de l'intelligence, la métamorphose spirituelle que Dieu peut opérer dans une vie humaine. C'est le plus grand des miracles qui se puisse vivre sur cette terre. Vous le savez cela? C'est le plus grand des miracles, parce que cette métamorphose fait d'un homme, d'une femme, un enfant de Dieu. Un homme, une femme changée, sauvée. Sauvé pour l'éternité. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Et peut-être en est-il du monde des chenilles, puisque nous en parlons, peut-être en est-il du monde des chenilles un peu comme du nôtre. Il y a dans notre monde toutes sortes de personnes, toutes sortes de gens. Vous en avez qui sont bien, respectables, honorables. Et puis vous en avez d'autres qui sont impossibles à vivre, qui sont turbulents. Il y a des hommes de toutes sortes. Peut-être en est-il ainsi du monde des chenilles. On n'en sait rien, au fond. Peut-être y a-t-il dans cet univers des chenilles du type Nicodème. Des chenilles bien. Des chenilles respectables. Des chenilles honorables. Et peut-être y a-t-il dans ce même univers des chenilles impossibles à vivre, des chenilles violentes, hein, des chenilles querelleuses, des chenilles disco, que sais-je encore. On ne le sait pas. Mais vous conviendrez avec moi qu'autant les chenilles bien que les autres ont besoin de la nouvelle naissance, de la métamorphose, pour devenir papillon. Peut-être qu'une chenille, je ne sais pas, à force d'éducation, d'instruction, peut devenir meilleure chenille. C'est encore possible. Mais restez chenille. Et vous conviendrez encore avec moi qu'il y a une grande différence entre une meilleure chenille et un papillon. Vous en avez trop qui tentent de se rendre meilleure chenille. À force d'éducation, d'instruction, de tout ce qu'on veut, de culture. Mais il reste chenille. Tandis que Dieu voudrait que nous devenions papillons, au plan spirituel, bien sûr. Et pour ce faire, il doit, lui, nous changer dans nos profondeurs. C'est lui qui peut opérer en nous cette nouvelle naissance qui sauve, qui change la vie. Et ceux qui que nous soyons dans ce lieu ce soir, catholiques, protestants, ou bien même athées, comme je l'étais, hein ? Parce que celui qui vous parle n'est pas venu au monde, comme je le disais tout à l'heure, en chantant un cantique. Moi, je n'ai rien reçu de Dieu. Je n'ai rien reçu de mes parents, plutôt, au plan religieux, jusqu'à 18 ans. Parce qu'on ne nous avait pas éduqués dans ce sens, à la maison. Et c'est à 18 ans que j'ai découvert l'amour de Dieu, que j'ai découvert le message de l'Évangile. Mais quelle transformation dans mon cœur ! Mon père était un intellectuel. D'origine, je suis kabyle. Vous l'avez peut-être su. Donc, mes ancêtres, très lointains, étaient chrétiens, comme saint Augustin. Il était kabyle. Mais ensuite est arrivé l'islam en Afrique du Nord. Et nous a tous, par la force, convertis à l'islam. Mais enfin, à la maison, on ne parlait pas d'islam. Mais quelle joie à mon cœur le deuxième soir, ici, dans ce lieu. Ici même. Parce que très souvent, je pense aux gens de ma race. Moi, je résulte, en quelque sorte, d'un mélange de berbères, Afrique du Nord, et d'Européens. Et ces Kabyles, je les ai à cœur. Et souvent, je prie pour eux. Mais je suis de culture française. Et que de fois je prie pour eux. Et le second soir, dans ce lieu, le second soir, ici même, à Tavannes, dans ce même lieu, un Kabyle s'est donné au Seigneur. À ma grande joie. Et il est passé par la nouvelle naissance. Il était travaillé depuis longtemps. La métamorphose, la nouvelle naissance qui fait de nous d'authentiques enfants de Dieu. Il faut naître de nouveau parce que nous ne naissons pas chrétiens. Et puis il faut aussi naître de nouveau parce que nous naissons pécheurs. On ne devient pas pécheur, on est pécheur. La Bible le dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur ? Ça ne se peut pas. Et David a avoué ce qui suit. Au psaume 51, il dit « Ma mère m'a conçu dans le péché, elle m'a enfanté dans l'iniquité. » Voyez-vous, même ces beaux bébés que Dieu nous a donnés sont nés pécheurs. Tout beaux qu'ils sont, tout potelés qu'ils sont, avec leurs fossettes. Mais combien êtes-vous ici à avoir été parents ? Levez la main pour voir. Combien avez-vous été parents ici ? Vous qui avez eu des enfants, levez la main qu'on voit. Bon, alors franchement, est-ce que ce sont des petits saints que nous avons mis au monde ?
petit sein auréolé. Ah, que de fois mes deux filles m'ont tourné en bourrique, hein. Tout bébé qu'elles étaient, elles nous piquaient de ses colères. Et de toute rose qu'elles étaient, elles devenaient toutes bleues. S'arrachant les cheveux, les chaussettes. Hein, nous savons ce que c'est. Et nous pensons que ces petits bébés sont venus au monde chrétien. D'où vient cette colère? Je me souviens, lorsque mes deux filles étaient encore enfants, dans leur tendre enfance. C'est une histoire que je raconte dans Un seul chemin. La plus jeune, Elisabeth, mordit Myriam, sa sœur aînée, au bras. Mais alors d'un coup de quenotte, hein. Et Myriam était venue vers nous, le bras douloureux. Elisabeth m'a mordu. Alors, nous avons mis de l'ordre dans cette histoire. Et avec Jeanne, mon épouse, nous nous sommes dit, mais où donc Elisabeth a-t-elle appris à mordre? Parce qu'à l'époque, elle était trop jeune. Elle n'allait pas même à la maternelle. Elle était toujours avec nous, toujours avec ses parents. Et les seules personnes sur lesquelles elle aurait pu copier ce geste, bien, c'était ma femme et moi. Mais avec ma femme, je vous assure qu'on ne se mord pas. On ne se mord jamais. Mais c'était déjà, chez Elisabeth, une expression, hein, de ce péché qui l'habitait. Nous ne naissons pas chrétiens. Nous le devenons par la nouvelle naissance. Par contre, nous naissons pécheurs. On ne devient jamais pécheur. On est pécheur. On est pécheur, et parce qu'on est pécheur, Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui peut vous changer. C'est la seule issue, la seule porte de sortie, le seul espoir de changement et de salut. Un éminent psychologue de l'heure, le docteur Pierre Dacot, dont j'ai lu quelques ouvrages, a écrit ce qui suit à propos de changement. Le tréfonds d'un papou, c'est-à-dire d'un homme primaire, est à peu près semblable à celui d'un homme habitant une région des plus civilisées du globe. Ceci pour vouloir affirmer qu'au fond de nous-mêmes, nous n'avons pas changé, nous sommes restés ce que nous étions. Voilà des milliers d'années, l'homme n'a pas changé, il a changé ce qui est autour de lui, il a changé la face des choses autour de lui. Mais il n'a pas changé dans ses profondeurs, dans son cœur. Il n'a pas changé. D'ailleurs, nous nous souvenons que les civilisations, d'une manière générale, qui ont précédé la nôtre, ont, pour la plupart d'entre elles, fini lamentablement dans des bains de sang. Mon épouse, à l'occasion d'un énième anniversaire, je ne me souviens plus duquel, m'a offert une histoire comparée des civilisations. Et j'ai remarqué, en lisant ses ouvrages, que, pour finir, l'homme est resté le même. Il s'est peut-être plus raffiné. Ah ça, oui. Mais dans ses profondeurs, hein, il est resté toujours ce qu'il a été dans les siècles passés. Il a versé le sang dans les siècles passés. Énormément de sang. Aujourd'hui, il verse encore énormément de sang. Et il en verse plus que jamais. Nous n'avons pas changé, voilà pourquoi Jésus parle de nouvelle naissance. Un jour, un jeune homme est venu vers moi à Paris pour me dire, Alain Joaquier, c'est nous qui apporterons la révolution en France. C'était un trotskiste, maoïste. Ah bon? Tandis que vous, les chrétiens, vous êtes des bourgeois. On va vous faire sauter. Ça te fait plaisir? M'a-t-il dit, en ricanant. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu annonces? Le changement. Je lui ai dit, moi aussi. Tu prêches le changement? Ah oui. Si tu voulais simplement venir entendre une fois. Moi, vous entendre? Ça, jamais. Mais enfin, tu acceptes que nous dialoguions? Oui. Ça, je veux bien. Et puis, si j'acceptais de venir dans ta salle de réunion, tu accepterais de venir dans une réunion marxiste ?
D'accord.
Et nous nous sommes revus plusieurs fois. C'est il y a de cela quelques années, alors que j'étais encore à Paris, fondant cette église qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'église de la nation. Et puis un jour, je lui ai dit, « Dis donc, est-ce que tu es changé pour me prêcher le changement ? Est-ce que tu es changé, toi, communiste, trotskiste, maoïste ? Est-ce que tu es changé ? Franchement, c'était une belle âme, une âme honnête. » Et il m'a dit, « Écoute, je ne peux pas te répondre comme ça sur le moment. Je vais réfléchir. » Et nous nous retrouvons un peu plus tard. Nous nous sommes retrouvés plus tard. Et il m'a avoué ce qui suit. « Non, je dois te dire que je ne suis pas changé, je veux être honnête. Mais je vais vers le changement, j'y vais !» Je lui ai dit, « Mon cher, tu es bien en retard sur celui qui te parle. Pourquoi ? Parce que moi, le changement, il est déjà derrière moi. Je suis changé, le Christ m'a changé. » Et regarde donc ces textes. Il les a lus. Et il m'a dit, « Mais c'est pas possible !» Le christianisme parle de révolution, il parle de changement, de révolution d'amour, de changement dans l'amour et dans la puissance de Dieu. Il en fut tout étonné. Je lui ai dit, écoute, si tu veux avoir une idée de ce qui se passe, viens donc et vois. Je ne te promets pas la perfection. Tu ne verras pas des gens parfaits, mais tu verras. Tu verras des patrons et des ouvriers qui fraternisent en Jésus-Christ. Tu verras des blancs, des noirs qui s'aiment dans le Seigneur. Il m'a dit, c'est pas possible ça. Bien, viens et vois. Il est venu, il a vu. Et il a disparu. Mais un mois plus tard, il est venu chez moi. Il est venu vers moi pour me dire, dis donc Alain, c'est ton évangile qui est la vérité. Parce que depuis que j'ai vu cela, je suis troublé, tourmenté. Et j'ai prié. Moi, le trotskiste, j'ai prié. Le maoïste, j'ai prié. Et il semble que Dieu m'ait répondu. Il se passe quelque chose. J'ai lu un peu ce que tu m'as donné. Et j'aimerais que tu m'aides davantage. Aujourd'hui, cet homme est ancien d'une église. Il était jeune à l'époque. Et depuis, il annonce la révolution par Christ. Et quand il a l'occasion de prendre la parole pour un témoignage, il dit ce qui suit. J'étais trotskiste, maoïste, révolutionnaire engagé. Maintenant, je suis chrétien. Et c'est Christ qui opère la révolution dans l'homme, la vraie révolution. Quel témoignage! Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que le Christ vous a révolutionné dans l'amour? Est-ce qu'il a fait de vous une nouvelle créature? Ce qui importe, dit Paul aux Galates, c'est d'être une nouvelle créature. L'homme change ce qui est autour de lui, Dieu change le cœur de l'homme. Et le grand savant de l'atome, Einstein, a dit « Il est plus facile de désintégrer un atome de plutonium que de changer le cœur de l'homme. » Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait. Il change l'homme, il le sauve et il s'est fixé. Entendez bien, et ce sera ma conclusion. Ceci va peut-être vous étonner. Dieu s'est fixé de faire des hommes. Des chefs-d'œuvre. Dieu s'est fixé dans son plan d'amour et de rédemption à notre égard. Il s'est fixé le dessein de faire de vous, personnellement, mon ami, un chef-d'œuvre. Alors je ne dis pas que ce chef-d'œuvre se réalisera sur cette terre, mais il se réalisera un jour en Jésus-Christ et notamment au jour du retour du Christ. Pourquoi donc ? Où lisez-vous cela, Alain Choiquier ? Mais prenez donc Philippiens 3:20. Notre cité à nous est dans les cieux, dit l'apôtre, d'où nous attendons aussi pour Seigneur, pour Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le Christ voudrait faire de nous un chef-d'œuvre. Il voudrait que nous cessions avec ces vies mesquines que nous connaissons quotidiennement. Il voudrait que, pour le temps présent, nous naissions de nouveau avec au cœur l'espoir de cette rédemption totale de notre être au jour de son retour. Dieu donc a décidé de faire de l'homme un chef-d'œuvre à l'image de son Fils. Et Jean reprend cette même idée en 1 Jean 3, 2 et la suite, lorsqu'il dit maintenant, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, mais ce qui sera n'a pas été encore manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables au Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais avez-vous pensé une seule fois, que Dieu ait décidé dans son plan d'amour de faire de vous un chef-d'œuvre, à l'image de son Fils, ressemblant à son Fils pour l'éternité? Voilà où conduit la nouvelle naissance. On dit de Michel-Ange, peintre, architecte, sculpteur, qui a vécu il y a bien des siècles en Italie, on dit de Michel-Ange que tout ce qu'il touchait se transformait en chef-d'œuvre. Mais qu'est-ce que Michel-Ange à côté du Christ, qui est l'artiste par excellence, et qui voudrait nous transformer à son image pour l'éternité, en commençant par la nouvelle naissance? Voudriez-vous, mon ami, naître de nouveau? Vous ne vous attendiez pas à entendre ce message ce soir. C'est pourtant le message de l'Évangile. C'est le conseil de Dieu. Alors comment naître de nouveau? Il faut le vouloir. Il faut venir au Christ conscient que nous sommes pécheurs personnellement, que nos péchés personnels ont été sur lui, au calvaire, pour être réglés. Et il faut aussi croire dans son cœur que la croix qui a été plantée à Golgotha l'a été pour faire de nous des nouvelles créatures selon le cœur de Dieu. Seigneur, tu viens d'entendre ces prières qui sont montées de ce lieu vers toi. Seigneur, visite ces cœurs, sauve-les. Qu'ils passent par la nouvelle naissance. C'est notre prière. Nous te la disons de toute notre force en Jésus-Christ. Amen.